Portrait d'artiste.
Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour. Demain ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. À la gloire de tous les enchanteurs du Merlin.
Portrait d'artiste. Boris Vian, Les Joyeux Bouchers, c'est la première musique que tu nous as proposée. Nicolas Torcheux, bienvenue dans ce studio.
Merci.
Artiste devant l'éternel, sourire éternel. Nicolas, comment tu le vois l'avenir, toi ?
Ah bah l'avenir, ça sera sûrement mieux après. Au moins là, on part sur une certitude.
Petit clin d'œil à ton spectacle qui parle d'avenir. Tu peux nous rappeler un petit peu comment s'appelle ce spectacle ?
L'avenir, c'est pas stable, mais c'est quelque chose qu'on construit ensemble.
L'avenir, c'était vachement mieux avant quand
c'était
même.
C'était mieux avant quand même. Avec le sillon et les phonographes à pavillon.
Et oui,
qui marche encore.
C'est en tant que comédien, artiste de rue que tu as monté ce spectacle. Tu peux nous parler un peu de ce spectacle ? On en a évidemment, on en a déjà parlé parce que c'est un spectacle qui tourne beaucoup, qui est beaucoup connu dans la région et puis même au-delà puisque tu as été joué bien au-delà des frontières de la région, on va dire. Parle-nous un petit peu de ce spectacle.
Ah ben je crois que c'est une histoire d'amitié avant tout avec mon collègue Damien. C'est une histoire de c'est deux zouaves qui font une colocation et puis qui s'amusent à se balancer des objets et puis celui qui rate l'objet il fait la vaisselle et puis du coup on s'invente des noms d'oiseaux. Puis après on finit par plus voir l'autre en couleur parce que il a son caractère qui est ce qu'il est, puis au bout d'un moment ça crée des personnages, en fait on transforme un peu la réalité. Après il y a un travail d'auteur qui s'est fait par-dessus, mais je crois qu'avant tout ce spectacle on exorcise un peu le fouteur de merde à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le clown. Voilà, ouais. Le clown qui a tendance à être trop présent dans la vie parce que ce qui fait que pourquoi je suis un clown, merde, c'est fatigant en fait. Pourquoi je travaille avec des clowns, c'est fatigant. Et ben en fait quelque part on en a fait quelque chose. Voilà, on a donné un petit peu le change quoi. Voilà.
Est-ce que ce spectacle, bon en ce moment on peut pas jouer les spectacles, est-ce qu'il y a des traces vidéo de ce spectacle qui marche fort quand même? Il y a une belle notoriété, il y a un bon retour, le public adore quand on vous a vu, on a envie juste d'aller vous revoir, on a envie de vous aimer quoi.
Ouais, c'est en fait, il y a une magie dans ce spectacle de simplicité d'abord, parce que c'est pas un spectacle qui a été conçu dans une complexité de rapport. Il y a pas de quatrième, c'est pas un quatrième mur, mais il y a pas de notion contemporaine, de présentation un peu plus concept. Voilà, et c'est quelque chose de très frontal. C'est deux personnages qui débarquent. Mais dans ce mode très traditionnel de théâtre de rue qu'on voit depuis très longtemps, le clown blanc, l'Auguste, etc., il y a une double lecture et il y a des sortes de niveaux de langage et de niveaux d'interprétation dans le niveau de jeu qui du coup font décoller aussi ailleurs. Mais je pense que c'est dans la simplicité qu'on tape fort dans ce spectacle.
Oui, mais simple, je pense que vous l'êtes, et puis vous êtes aussi dans votre complexité d'être humain, où on voit que les choses qui peuvent déborder dans la réalité débordent dans le spectacle, mais pour faire rire, et même des fois même pleurer. Ça me fait penser à un mot burlesque. Si on pourrait voir ce spectacle en noir et blanc pratiquement.
Damien, le deuxième, il voit ça beaucoup comme burlesque, et ça c'est vraiment un indifférent là-dessus. Moi, je le vois pas comme du burlesque. C'est bizarre. J'arrive pas à le voir comme ça.
En tout cas, vos personnages le sont.
Voilà. Je le vois comme une comédie.
Oui.
Une comédie, peut-être loufoque. Une comédie, mais je sais pas exactement le terme technique. Moi, j'y connais rien à tous ces trucs. Mais burlesque, ça m'évoque quelque chose de plus traditionnel. Pour moi, burlesque, c'est une étiquette très précise. Comme tu me dirais, on fait du bouffon. Du bouffon, c'est très, très technique comme étiquette. Burlesque, c'est pareil. Et pour moi, on répond pas, en fait, aux critères du burlesque. Mais bon, après, ça, c'est...
Oui, bien sûr. Après, oui, évidemment. Oui, je comprends exactement. Mais en fait, ça nous ramène quand même, quand on voit votre spectacle, ça nous ramène quand même à cette sensation qu'on avait lorsqu'on voyait un film muet quand on était petit. Quand il y avait la séance du spectateur, il nous mettait toujours à un moment donné un film muet, et on retrouve dans votre énergie, et alors que c'est pas muet, on retrouve cette joie qui paraît inaccessible dans la réalité et qui pourtant est bien là pendant le spectacle.
Ce spectacle, en fait, je pense que c'est dedans, il y a les frères, les Marx Brothers, les frères Marx.
Ah mais on...
de par déjà le comique d'objet, puis ils se foutent dans la merde les personnages en fait. C'est des branquignoles en fait. On est vraiment des branques confirmées quoi, tu vois. On cherche à là où là on va bien se foutre dans la merde. Allez viens, on y va, on s'arrête pas, on va jusqu'au bout. C'est un peu ça quoi, la logique du spectacle et des personnages. Et puis il y a aussi des proches, et puis il y a aussi De Vos, et puis il y a aussi Brassens, et puis de par si tu veux le niveau de langage et l'écriture, parce qu'on a fait un travail d'auteur avec Jean-Christian d'ailleurs, que je salue, coucou Jean-Christian, qui a énormément contribué aussi à la trame, à l'écriture, à la simplification, à l'exposition vraiment de la nature des personnages et puis de leur objectif quoi.
Allez, portrait d'artiste avec Nicolas Torcheux aujourd'hui. Évidemment, on parle de son premier spectacle, j'allais dire majeur. N'est-il pas Est-ce que t'as des activités majeures dans ta vie ou est-ce que tout est important?
Tout à l'heure, je faisais, tu vois, le conservatoire avec David, et j'étais en distanciel, et en fait, j'étais sur de la guitare, et c'était à ce moment-là super important. Je pense que voilà, moi, je veux dire, je fais pas me coller à un truc en me disant ça, c'est mon biniou, j'abandonne tout le reste. Je suis un touriste, en fait. Éclairé, voilà, je m'éclaire un peu. Je prends ce qui me fait plaisir, et puis le reste, je le laisse quand ça commence à sortir de des choses qui. Je m'amuse, en fait. J'essaye de m'amuser et de partager ce plaisir que j'ai eu, en fait, à découvrir quelque chose. Je m'amuse, en fait.
Bon, en tout cas. En ce qui concerne le volet spectacle, ça fonctionne. On viendra sur d'autres volets parce que tu pratiques plusieurs, on va dire, catégories, non peut-être pas catégories d'art, mais plusieurs petites fioritures d'art qui émergent de ton envie de vivre, tout simplement. Si je te propose d'aller faire un tour du côté de l'été, l'été. Où est-il ? On va parler un peu de l'avenir. Juste avant d'écouter ce morceau que tu nous as proposé, je voudrais juste que tu nous dises si on peut voir des extraits de votre spectacle en attendant qu'il se rejoue sur le net.
Ouais, alors sur le net, je crois que sur YouTube, vous pouvez taper l'avenir, c'était mieux avant. Les Vilebrequins, voilà. L'avenir, c'était mieux avant. Normalement, vous allez tomber. Vous marquez théâtre cirque tout public. L'avenir, c'était mieux avant. Vous tombez dessus. Mais même théâtre cirque tout public, je crois qu'on est dans la première page.
Voilà. Vous l'avez bien compris. Les Vilebrequins, le monsieur loyal que vous voyez perché sur un gros ballon, pour ceux qui y sont allés, avec son visage lumineux et ses yeux bien clairs et qui éclaire aussi le monde et qui éclaire nos cœurs, c'est Nicolas Torcheux. Il est là, on fait un portrait d'artiste. On a parlé de ce spectacle très important dans sa vie puisque il a beaucoup consacré de temps avec le fameux Sissou qui n'est pas à piquer des hannetons non plus. Mais on va parler aussi des autres cordes qu'il a à son arc. Allez, on écoute l'été, où est-il ? Et puis tu nous diras de qui c'est ça, après, d'accord ?
Okay.
Allez, c'est parti. Vous êtes dans le magazine culturel by James.
La pluie, ah quel sale temps. Où est-il l'été? L'été où est-il? Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale.
Non, mon enfant, je suis la fée.
Ah, bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai?
Vrai?
Ben je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant?
Ben, je voudrais avancer l'été.
Été, été, été.
Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin. Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Qu'il fasse chaud des méchouis.
Méchoui.
Puis qu'il fasse beau des paquebots.
Paquebots.
Que le soleil tape en marteau.
Marteau.
Ça serait bien qu'il fasse des hivers beaux. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Si de plus un climat chaussette,
ma chaussette,
cette année dès l'automne
tonnelier,
tous les étés les uns aux autres, ça serait le genre de temps qu'on bénit, surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il été, l'été où est-il, où est-il été, l'été où est-il.
Mon enfant, ne soit pas
saltant,
ton joli souhait m'a beaucoup plu, et je vais pouvoir l'exaucer.
Saucé.
Oui, je peux, oui, ce pouvoir,
je l'ai.
Abracadabra, cette pluie, soleil d'été resplendit.
Oh, miracle, un astre éclatant, irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle a fier papa, c'est madame la fée qui a fait ça.
Alors, heureux?
Oh oui, madame la fée.
Charmant enfant.
Merci, madame la fée.
Et c'est poli, adieu, mon enfant.
Au revoir, madame la fée.
Charmant.
Hé, hey, le bonjour à monsieur l'a fait.
Crétin, tiens.
Alors, on a reconnu un certain Bobby.
Ouais.
De son nom La Pointe.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous présenter à ceux qui connaissent pas. Mais Bobby La Pointe, notre génération, on le connaît de grâce à nos parents d'ailleurs, parce que on était tout petit, peut-être même pas né encore quand ce mec était sur les planches.
Ouais.
Je te laisse le présenter, ce gars.
Bobby, c'est mon chouchou en fait. C'est mon chouchou. Avec mon papa, quand on partait en vacances, il avait un vieux taco Mercedes, là, un vieux taxi des années 70, avec 420 000 bornes au compteur. Et on partait en vacances, on allait à Biarritz, et il y avait toujours une cassette où il y avait Bobby Lapointe. Donc pour moi, Bobby Lapointe, c'est les vacances. En plus, c'est un barbu comme mon papa. Et puis c'est un mec quand même qui, pour déserter en 43, s'est engagé comme scaphandrier au port de la Ciotat et qui a pris un nom d'emprunt pour pas se faire retrouver. Et il s'appelait Robert Foulcan.
Énorme. À propos du scaphandrier, est-ce que tu connais l'anecdote qui s'est passée dans un Olympia, lors d'un Olympia?
Non.
Le mec lui demandait de venir instamment à l'heure, parce qu'il avait tendance à pas arriver à l'heure. Une anecdote, hein. Il est parti en tournée avec Georges Brassens. C'est Georges Brassens qui raconte ça à un journaliste. Ça fait 4 jours qu'ils attendent Bobby Lapointe. Il est toujours pas venu faire la première partie de Georges Brassens, quand même.
Voilà.
Et un beau matin, il arrive après avoir échappé à 4 dates et avec cette excuse suivante. Oh, nous sommes passés du côté de Dijon et nous avons trouvé un petit vigneron. Je ne te raconte pas. Voilà, c'est Brassens qui raconte ça lors d'une émission qui a été diffusée longuement sur France Culture. Je voulais absolument en profiter, puisqu'on parle de Bobby Lapointe, en profiter pour raconter cette anecdote. Tu parles de scaphandrier, et effectivement il est venu habillé en scaphandrier lors d'un Olympia, parce qu'il était fâché avec le directeur de l'Olympia, et il paraît que ça a marché, quoi. Ils sont restés définitivement fâchés. Bon, enfin bref.
Mais ça, c'est
Bobby
c'est...
Lapointe pour toi, c'est qui?
Bobby, Bobby, c'est un trickster, c'est le bon génie, c'est l'espèce de fripon céleste. Mmh. Moi, l'image de Bobby, c'était le 33 tours avec sa gueule, avec son pull rayé, avec sa barbe là, dans les fleurs, allongé sur le ventre, un dessin de Bobby Lapointe. J'ai toujours vu, voilà, c'est je ne suis qu'un tendre troubadour et je ne vis que pour l'amour. Voilà, c'est un vers de Bobby Lapointe. Voilà, quand on me dit Bobby Lapointe, je pense à ça, quoi.
Quand on prononce le prénom et le nom Bobby Lapointe, ça reste aussi quelque chose qui fait penser à la liberté sauvage. Mmh. Ça manque aujourd'hui, ça, cette liberté, non ?
Mmh. Ouais, c'est pas donné en tout cas. Ça se présente pas comme, on va dire, un petit cadeau de Noël au coin du sapin, quoi. C'est quelque chose qui va se conquérir. Un peu comme une femme, en fait. Un peu comme une relation.
On reviendra un peu sur ce qu'on peut conquérir au niveau de la liberté d'exister, de respirer, des choses qui nous ont été données par notre père et notre mère. Mmh. Qui, j'espère, vont pouvoir continuer à nous voir utiliser de près ou de loin, parce que des fois les parents se sont envolés là-bas avec les archanges, mais de près ou de loin, de voir que tous les sens qu'ils nous ont donnés vont pouvoir être utilisés sans être trop masqués ou démasqués ou bouchés, ou je sais pas. On va y revenir. Bobby Lapointe, il est poète libertaire, empreinte de liberté. Tu étais en train de nous dire ce qu'il représentait pour toi, le souvenir évidemment d'enfance, parce qu'il y a toujours un grand con de papa ou une grande maman un peu bêtasse qui met toujours ça dans les oreilles des enfants, et puis ça en fait des artistes. Au lieu d'en faire des mathématiciens ou des politiciens.
Ma mère supportait pas du tout Bobby Lapointe, c'était l'horreur. Je pense que ça a été motif de séparation. Hein. Enfin, un des premiers motifs de séparation, ça, c'est sûr. Enfin,
c'est sûr que l'horreur. Ça permet de doser. Doser l'humour.
C'est ça.
Allez, on va faire une petite pause musicale. On a compris, tu es comédien. On a parlé de ce spectacle qui me paraît le spectacle phare du moment, en tout cas dans la tempo synchrone. Il y a peut-être d'autres choses de plus importantes dont on va parler après. Là, on va faire une petite pause. Tu nous as donné tes goûts, enfin tout quoi, tes maîtres qui t'ont inspiré visiblement depuis ton enfance, Bobby Lapointe. Là, on part sur de bonnes bases.
Et Boris Vian.
Voilà, tu nous as parlé de Fripon, et moi j'ai pensé à Divin, et j'ai pensé évidemment à notre ami Nelson qui a écrit un super texte qui s'appelle Fripon Divin. Je vous propose de l'écouter, et on se retrouve juste après, Nicolas. Merci pour cet instant magique. C'est parti, Nelson, Fripon Divin.
De destin qu'on lui montre, deviendrai-je un être humain demain? Oui, je sais tomber comme le vent, disparaître puis devenir, tomber comme une maladie, tomber, mordre, griffer, faire des croche-pieds, faire palpiter ses décors. Obsessionnel, panique, hystérique, sacrifice,
bleu auguste, aux couleurs bariolées, respectables saltimbanques, bouffons célestes, phénomène de trompe-l'œil, gabarit désordonné, activité volcanique, d'un victuos tourmenté, il expire comme un ballon crevé, fait trois pas entre deux terres, il ressuscite, se ramène redoutable des secteurs.
Nicolas Torcheux aujourd'hui, comédien, chanteur, homme libre, citoyen modèle. Combien il en faudrait plus ? Non, je rigole.
Un seul, ça suffit.
Allez, la suite, on a écouté notre ami Nelsine, évidemment. Nelsine, fripon divin. Nelsine, c'est une auteure, compositrice, interprète qui s'est lancée dans différentes expériences musicales. Elle vient du baroque. Nous la connaissons très très bien, j'ai voulu mettre ce titre parce que je trouve que ça raccrochait bien avec le personnage de Bobby Lapointe que l'on retrouve dans tes spectacles, dans ton être peut-être faut-il des maîtres qui nous inspirent d'après toi.
Il y a des petits bouts de tout en moi. Après, les influences, je pense qu'elles se font tous les jours. Heureusement, enfin, la curiosité fait que... Bah, moi, c'est pour ça que j'aime bien être plus pluridisciplinaire, aller un petit peu toucher à tout, parce que finalement, déjà, tu vois que tout se recoupe, que les concordances entre la musique et le théâtre sont criantes, que qu'en dessin, c'est pareil, que le rapport gymnique en cirque, c'est pareil au niveau de plein de choses par rapport au corps. Et puis, tu t'ennuies pas, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, l'ennui, c'est quelque chose que l'être humain est confronté en fait toute sa vie. La question du sens qu'on donne à sa vie. Toi, visiblement, t'as donné du sens à ta vie par rapport à l'art ou aux arts que tu pratiques. D'ailleurs, tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu fais au niveau artistique.
En fait, moi, à la base, je fais une école de cirque à Genève. Donc c'était le théâtre Circule à l'époque, du temps où ils étaient encore à Tonnet. Après, ils sont allés sous un grand chapiteau en 2004. Mais entre 2002 et 2004, voilà, c'était la formation professionnelle des arts du cirque, en fait. Et je me suis formé essentiellement aux équilibres sur les mains, au diabolo, au massu. Et puis voilà, j'ai eu la chance, parce que c'était la politique dans cette école, de... En fait, il n'y avait pas un prof avec des élèves, en fait... Même il y avait certains élèves qui avaient des niveaux, je sais rien, en danse classique, ou des niveaux en théâtre, ou des niveaux en tissu aérien, qui étaient géniaux. Et en fait, on prenait des cours avec certains élèves. Et c'était vraiment comme ça, au débeauté. Puis il y a certains élèves qui disaient, moi, je connais une équilibre sur les mains, une équilibriste, elle sort de Montréal, elle est là pendant 3 semaines dans la région, machin. Faut la faire venir. Est-ce que vous êtes OK? Bon, bah, on sera regardé avec la direction, leur dire, on la veut pendant 10 jours qu'elle nous fasse des courses d'équipe sur les mains. OK. Et en fait, elle tournait en autonomie, cette école. On donnait des cours aux élèves de la formation loisir pour pouvoir financer notre formation pro. Enfin, voilà. Il y avait quelque chose de libertaire dans cette école, d'ailleurs.
Partage aussi, partage des savoir-faire.
Ouais, beaucoup. Et puis le profil des personnes, des élèves était très intéressant, en fait. Tu pouvais te retrouver avec toute jeune personne qui avait un niveau gymnique monstre. T'avais des gens qui avaient 30 berges, qui étaient plutôt marionnettistes, qui étaient plutôt metteurs en scène, etc., qui voulaient absolument se former en aérien. Donc il y avait une richesse au niveau des différents profils des élèves qui c'était ça l'école en fait. L'école elle était là en fait. Et donc moi voilà, ça fait partie de ma formation. Et aujourd'hui quand j'aborde une discipline, quand j'aborde le cirque ou même quand j'aborde la vie en général, c'est toujours un peu en écho, c'est toujours ce que j'ai vécu dans cette école, c'est-à-dire le rapport déjà à l'être, à l'autre, à l'humain, à ce qu'on peut faire ensemble, quelles sont les qualités. Et bon, voilà, on n'est pas artiste de cirque purement, on est avant tout créatif, inventif, curieux. On a envie de faire quelque chose, quoi. Quelque chose de bordélique, de joyeux, de mixé. Putain, on pourrait mettre un piano en hauteur. Moi, je pourrais tenir une corde. Hop, je lâcherais une grande lampe. Boum, l'autre, il l'attraperait. Ah ouais, toi, à ce moment-là, est-ce que tu pourrais faire ça? Enfin, tous nos spectacles, ils étaient basés sur cette espèce d'émulsion, de fait qu'on était déjà expérimenté dans le milieu de l'art par diverses choses, qu'on n'était pas des bols vides, mais aussi qu'on avait ce rapport non spécialiste. On n'était pas des spécialistes. Et encore aujourd'hui, je le revendique, je ne suis pas un spécialiste.
Tu te définis comme quel type d'artiste, alors? Enfin, ce qui te va bien, hein.
Ouais, bah, saltimbanque, ça me va bien.
Saltimbanque, hein, c'est pas mal, hein. Alors, pour toi, je repêche ces quelques vers. Saltimbanque, rêveur d'infini, voyageur sans bagage, je m'en vais sans me retourner, rejoindre la nef des fous. C'est un poème qui appelle au voyage, à la liberté et au départ définitif lorsque plus rien n'est possible, mais c'est pas du tout quelque chose de morbide, c'est juste un appel. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu nous parlais de sens que tu donnais à ton métier à travers l'école que tu as fréquenté. Mmh. Et en même temps, merci de nous avoir livré cette information sur ton parcours de vie, parce que lorsqu'on va te voir en spectacle, c'est quelque chose de dire, ce mec, il a fait une école de cirque pour ensuite partager des spectacles. Alors évidemment que tu n'es pas que dans un geste total de bonté, sinon tu t'appellerais Dieu, mais en tout cas, quand on y pense, c'est touchant, parce que les gens aiment savoir que quelqu'un s'est consacré à quelque chose pour de vrai. Tu vois, je voudrais pas t'amener sur un terrain miné, mais on en connaît plein des professions où les gens, ils ont, en faisant rien, ils arrivent à pas grand chose, mais avec une notoriété qui retentit sur la vie de chacun, je parle de la politique notamment, et sur les choses qui pourraient nous empêcher d'être libres. Acte citoyen, parlons de gens qui se sont consacrés à quelque chose pour partager quelque chose et que ça soit validé par le commun des mortels, y compris les enfants qui vont dire « Ah ouais, pour faire ça, il faut sûrement passer du temps à s'entraîner, avoir fait des efforts, de s'y être consacré. Ça tombe pas tout cuit, tout rôti du porte-monnaie des citoyens. » Bon, ça, ceci étant, je suis en thérapie. C'était mon petit coup de gueule du midi. C'est habituel. J'ai autorisé.
Vas-y, mais j'en profite. J'adore tes coups de gueule.
J'en profite simplement pour te tendre la perche à travers tes différentes facettes d'artiste dont tu nous as pas encore tout dévoilé. On a parlé de la partie spectacle, on a parlé de ton spectacle avec Sissou, où l'avenir c'était franchement vachement mieux contrairement à ce que vous dites, et il y a aussi le côté musique. On finira d'ailleurs par les musiques que tu joues et que tu chantes. On finira cette émission avec cette partie de toi. Moi, maintenant, je t'ai dirigé en terrain miné vers le côté citoyen. J'ai ouï dire, et mes yeux m'ont indiqué que tu étais sur une place avec beaucoup de monde qui réclamait simplement un espace pour passer du temps à un moment donné où ça devient vraiment trop dur, trop compliqué. Le vivre ensemble en tant que citoyen, est-ce que tu peux nous parler de tous ces événements avec les abeilles citoyennes, avec d'autres aussi, sachant que toi, tu es engagé dans ce combat citoyen, enfin en tout cas, je sais pas comment t'appelles ça.
Ouais. Je sais pas si c'est citoyen en fait. Je sais pas si ce terme-là, il est juste. Parce qu'en réalité, citoyen, ça veut dire qu'il y a le citoyen, mais il y a le père de famille, mais il y a l'artiste, mais il y a aussi, je sais pas, l'électeur, ou le penseur, l'auteur. Enfin, si on veut rassembler tout ça, pour moi, je dirais juste en tant que personne, par exemple. En tant que personne, voilà. Et moi, en fait, ce que je vois aujourd'hui et ce que je vois depuis 2 ans, depuis la crise des Gilets jaunes, en fait, c'est quelque chose de... Pour moi, mon rôle d'artiste, c'est juste d'amener quelques sourires, en fait. Parce que on crée la réalité avec ça. Et aujourd'hui, on est en guerre psychologique, donc c'est pas des tranchées, on jette pas les gens avec des fusils pour descendre la butte comme il y a bientôt 150 ans, ils ont fait à Paris, à la Commune, en 1871. Donc, mais il y a quelque chose quand même de ce ressort des communards, c'est-à-dire ce sentiment un peu peut-être pas clair, mais en tout cas ce sentiment qu'on vaut mieux que ça. Et que notre créativité, notre énergie vitale, c'est-à-dire ce qu'on invente, ce qu'on fait de nouveau, ces choses-là, si on pouvait les mettre au service de la vie et du bien commun, eh ben en fait notre société, elle changerait de réalité, en fait. Et là aujourd'hui, je pense que voilà, mon rôle là-dedans, c'est d'aller aux informations de 20h. Pour moi, mes informations de 20h, c'est debout sur un ballon avec des gilets jaunes. Voilà, ça, c'est mon information du 20h. Et j'ai besoin d'aucune autre information. Parce que c'est, là, je crée ma réalité. Et en fait, en parlant avec les gens, ce que je colporte et ce que je traîne derrière moi comme poudre de perlimpinpin, c'est cette réalité-là qui est notre temps est toujours prêt. Ça, c'est la Bible, hein. Notre temps est toujours prêt. Mon temps n'est pas encore venu, mais le vôtre est toujours prêt. Allez-y. On en est là. Il faut essayer de naviguer dans ces eaux troubles. Voilà.
Navigation en eaux troubles par les temps qui courent, en fait, simplement pour dire qu'en ce moment, il y a un espace de liberté qui s'est réduit par rapport à la crise sanitaire. Mais comme tu le disais justement, la crise, elle a commencé avant le Covid avec la crise sociale et la crise des retraites et la crise de nerfs en général de toute la société, qu'on le veuille ou non. De toute façon, ce n'est pas nous qui inventons ça. On n'a pas assez de malveillance pour cela. Et de pouvoir, de toute façon, divin, parce que là, du coup, il faudrait avoir des super pouvoirs. Si on pouvait créer ce genre de truc, on pourrait peut-être aussi l'arrêter.
Mais on en a des super pouvoirs.
On en a des super pouvoirs. Mais justement, c'est là-dessus que je veux t'emmener. Je veux t'emmener, mon petit... Alors, comment on dit fripon divin?
Oh là là, fripon divin.
Voilà, fripon divin. En tant que personne, donc, puisque maintenant que tu as humanisé la relation, en tant que personne, c'est-à-dire multiple, ça va être comment l'avenir?
On va avoir un beau printemps. Un très, très beau printemps. L'avenir... C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est là, nous deux, James et Nico, ici dans ce studio. Pour moi, c'est ça l'avenir, en fait. Il n'y a pas d'autre réalité. Je sais que l'avenir sera local et joyeux. Alors, est-ce que c'est une forme politique? Non, je ne crois pas que c'est une forme politique. C'est juste des réalités, comme je te disais tout à l'heure, en fait. On crée ensemble. Des envies, et on affirme que ça, c'est quelque chose dont on a envie. On est pourquoi, en fait. Ça, c'est Zebulon qui m'a bien remis un petit peu l'aiguille, tu vois, sur la bonne heure, l'heure claire, quoi. Il m'a dit, non, mais t'es pourquoi? En fait, moi, je suis pour les sourires, je suis pour la joie, je suis pour les fêtes, je suis pour l'apprentissage, la transmission, savourer les choses. Je suis pour le silence, je suis pour la fête, le vacarme, je suis pour la vie. Et ça, on peut le faire aujourd'hui. On peut le faire, on a une tribune aujourd'hui. Cette tribune, c'est une crête de vagues. Alors évidemment, il y a une tempête, il y a des vagues, il y a des tourments, il y a des tourbillons, des maelstroms, il y a tout ça. Il y a des trous noirs qui aspirent. Mais en réalité, ça n'a pas de force, ça n'existe pas. Le masque, les décrets, les couvre-feux, tout le tutti quanti, les vaccins, tout ça, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est notre ferme et envie de créer ensemble une réalité joyeuse, amoureuse, savoureuse, voluptueuse. Et ça, si on capte ça, et qu'on coupe toute forme d'autres informations, je dis pas pour toute la vie, mais en ce moment, si on coupe les réseaux, si on coupe les radios, si on coupe les journaux, si on coupe pas Fréquence Mistral, coupez pas Fréquence Mistral, et pas Zinzine non plus, coupez pas plein de trucs, mais il faut absolument, enfin moi je dis pas il faut, c'est pas, je veux pas rentrer en ayatollah pour tout le monde, mais moi en tout cas j'ai vraiment décidé de filtrer, et d'être à l'écoute de mon corps. Si aujourd'hui j'ai envie de manger, je sais pas, une pièce de bœuf, et si mon corps me dit, cette pièce de bœuf, il la faut, tu la sens, tu y vas. Si un jour tu veux te faire BFM, fais-toi du BFM. Parce que tu sens que t'en as besoin, que c'est la dose que, prescrite par... tu vois,
c'est de la drogue dure, ça. Hein.
C'est de la drogue dure, mais rien n'est... comment dire, Il n'y a pas de lieu profane. Il n'y a rien de profane.
Absolument.
Ouais. Voilà. Donc tout est bon à prendre. Il suffit juste de savoir, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que t'en as besoin? Est-ce que ça t'intéresse?
Topi.
Si c'est non, c'est non. Voilà.
Tout correspond à l'idée qu'on s'en fait, peut-être. Mmh. Peut-être c'est une question d'interprétation, tout ça.
Ouais.
Bon.
Ouais.
On va passer sur... on arrive à la fin de cette émission, déjà. Mmh. Ça passe très vite. Mmh. Tu nous as enchanté parce que tu nous as donné un petit peu une histoire de ton parcours. Ça nous a permis de te découvrir en tant qu'artiste. C'est important, de temps en temps, de se poser, et puis aussi de... Nous, à notre façon, de te rendre hommage pour tout le travail que tu as fait, que tu fais encore, et puis toutes ces belles paroles que tu balances dans l'atmosphère. Il y a un petit rayon de soleil là qui rentre dans le studio au même moment. Ouais. Il y a aussi donc la musique, et c'est la dernière partie qu'on va voir du côté de tout ce que tu aimes faire et ce que tu pratiques vraiment très sérieusement. Si je te dis Georges Brassens. C'est qui pour toi, Georges Brassens? Il représente quoi? Parce que en fait, ton spectacle, enfin, il y a un spectacle particulièrement où tu te produis, où tu chantes Brassens accompagné avec une guitare, on va dire, de style manouche.
Ouais.
Alors Brassens.
Brassens, c'est un peu mon évangile, tu vois. C'est chaque chanson de Brassens, c'est une sorte de petit cadeau avec des choses cachées qu'il faut avec le temps, qu'il faut prendre le temps d'observer, de regarder, d'y revenir. Les chansons de Brassens se réécoutent et elles se lisent, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Mais Higelin aussi, les chansons d'Higelin se réécoutent et se lisent. Et mais avec Brassens, pourquoi Brassens en particulier? En fait, tout simplement, je pense que c'est la simplicité, en fait, de cet amour du mot et puis ce refus d'endosser une quelconque forme de lutte politique, en fait, je pense. Voilà, ce refus assumé, en plus dans les années 50, il fallait absolument être pro ceci, anti cela, il fallait absolument prendre position sur le Vietnam, prendre position sur les Allemands, prendre position sur tout ça. Et Brassens a traversé en héros tous ces écueils-là, et il s'est pas trop pété la gueule, en fait, pas du tout même, je crois. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait, chez cette personne. Pour moi, c'est un peu l'incorruptible de la chanson française, quoi. Le vieil anard, moustachu, jovial, heureux, et puis qui passe son temps allongé sur la margelle du ciel, à balancer du bleu, du vert, du rouge, hop. Puis il donne sa chanson, et puis elle reste. Et elle restera bien après.
On va passer notre temps sur la margelle du ciel à balancer du bleu. C'est joli comme phrase, on va la garder, quand on va en faire un jingle sur Fréquence Mistral. J'ai une autre question par rapport à Brassens. Apprendre Brassens, c'est quelque chose, parce que les textes sont chiadés, sont léchés, la moindre syllabe a un sens qui résonne souvent en décalage avec les notes ou en tempo synchrone. Comment est-ce qu'on apprend Brassens par cœur?
Un peu pareil qu'on apprend à jongler. On prend un objet, on le lance, on le relance, on essaye de varier la hauteur. On prend le temps de détendre son corps, d'essayer de laisser la jonglerie un petit peu faire connaissance avec nous. Puis après un deuxième, un troisième. Puis après, au bout d'un moment, en fait, tu répètes une routine. cette routine, elle a été construite pour toi par un monsieur qui s'appelle Brassens. Et quand tu la reprends, en fait, il y a quelque chose qui est du ressort un petit peu de, comme De Vos qui prenait un violoncelle et qui ponçait son truc parfaitement, qui te faisait, alors qu'il n'était pas un spécialiste de la musique, mais quand il faisait un morceau, ce qu'il faisait, il le faisait bien, putain, il le faisait super bien. Et c'est ça, en fait, que moi, j'adore avec Brassens, c'est que tu peux pas chantonner Brassens, tu peux pas faire à moitié Brassens, ça passe pas. Donc, du coup, t'es en tension, t'es en éveil total, et t'es obligé, parce que sinon, tu vas te planter, tu vas te prendre le piolet, là, tu sais, quand tu escalades l'Everest, et pouf, là, merde, blam, tu tombes, et après, t'as l'air con. Mmh. Hein. Et donc, du coup, c'est ça que j'aime avec Brassens, c'est ce challenge au niveau des mots, finalement, qui me tient bien réveillé, quoi.
Et donc du coup, avant le confinement, il y a eu des concerts de données avec ce projet Brassens.
Ouais, il y a eu des concerts.
On peut te retrouver. Tu as produit des vidéos, du son qu'on peut retrouver sur le web. Tu peux nous parler un peu de ta production phonographique, par exemple. Je sais pas s'il y en a une.
Et oui, il y en a. Bon, alors en fait, je vais te parler du tout dernier projet. Comme ça, au moins, on cible et on fait de la qualité sur un truc en particulier. En fait, il y a un an de ça, j'ai rencontré deux musiciens, donc trois musiciens même, qui sont tous de la région, un qui est sur Valensol, contrebassiste, qui travaille beaucoup à l'Ozon Jazz Club, en tout cas qui a accompagné pendant des années beaucoup les sessions de jam et tout ça, Patrice. Et un autre guitariste donc, qui est plutôt flamenca et qui lui, Laurent, un mec de Riance, qui joue avec beaucoup d'autres groupes Brassens, qui est un aficionado Brassens aussi, sacré Laurent quoi. Et le dernier guitariste, qui est un guitariste manouche et qui est luthier de son état, Laurent aussi, un autre Laurent, donc Laurent Berger de Bradas. Pareil, voilà, on a un peu Brassens en intraveineuse, tous quoi. Et voilà, l'idée, en fait, on s'est retrouvés et finalement, on remplaçait un groupe qui avait pas pu se jouer. Donc, on était de passage et on a voulu s'appeler les Oiseaux de Passage. Donc juste pour faire ce remplacement. Et en fait, finalement, on a continué à jouer et puis on s'est dit bon, on va continuer à s'appeler les Oiseaux de Passage, qui est un texte de Jean Richepin d'ailleurs, chanté, mis en musique par Brassens. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne, que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Voilà. C'est magnifique. Les Oiseaux de Passage. Et donc on a enregistré avec Thomas Rebar, donc à son studio à Manosque, le studio Movida. On a enregistré donc trois morceaux. Donc on a fait un petit teaser avec un petit découpage, un fondu des trois morceaux en une minute. Et voilà. Donc c'est notre dernier projet, quoi. Ouais.
Dernier projet, tu nous as amené une petite mouture qu'on puisse écouter.
Alors le projet s'appelle Swing Brassens. Donc c'est du Brassens en jazz manouche. Donc je vous ai apporté le testament.
Voilà, on va se quitter avec le testament, avec tes musiciens. Avec qui vous avez fait cette production phonographique chez Thomas Rebart, au studio Movida. C'est important de le rappeler. Tiens, un oiseau de passage, parce qu'en fait, on s'était dit trois quarts d'heure, c'est beaucoup, puis en fait, ça passe très très vite. Repasse quand tu veux, oiseau. Et puis, je vous souhaite une agréable journée, une belle journée, vive, joyeuse, intense. Nous étions avec Nicolas Torcheux, artiste, saltimbanque, musicien, vivant, une personne, quoi, vivante. Maintenant, allez, on écoute les oiseaux de passage, le testament.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va t'en voir là aussi j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient foualier. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts.
Dans la fosse commune, la
fosse commune.